Le peloton RMC, Pierre-Yves Leroux.
Bonjour à tous et bienvenue à Barcelone, bienvenue à Montjuïc, premier point de rendez-vous en altitude de cette édition du Tour de France 2026 dont le départ sera donné ce samedi 4 juillet, un premier week-end barcelonais que nous allons décrypter avec le peloton RMC. Autour de la table, des rouleurs, des grimpeurs, Christophe Cessieux, la leyenda, un quart de siècle de Tour de France. Salut Christophe.
Un quart de siècle, bah oui,
25, c'est ça à peu près. Ouais, c'est le 25e. Tout juste. Ah, c'est beau.
Et je suis plus descendeur maintenant, moi. Hein, que...
Oui, bah, oui. C'est comme
plus,
ça.
Je ne grimpe plus du tout comme Jérôme Pinot, par exemple.
Ah, ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Effectivement, nos deux consultants sont vraiment en pleine forme. El Rey del Relor, le haut couturier de Savoie, ou l'inverse, Jérôme Coppel. Enfin, on peut dire. Les deux. On à partir du moment où il y a eau.
Exactement. Tant qu'il y a eau, c'est bon. Salut à tous.
Et l'haltérophile de Loire-Atlantique, celui qui sera un peu notre capitaine de route et notre chauffeur, Jérôme Pinot. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Il est très bien, le chauffeur. Il râle quand on l'attend pas à la sortie de la voiture.
Je le présente comme l'haltérophile parce que ce matin, pour cette première journée en Espagne, il s'est présenté pour le premier footing de l'équipe.
Le deuxième pour moi. Le deuxième.
Dans ça une sera, tenue magnifique.
Ça sera à retrouver sur mon Twitter cet après-midi pour ceux que ça intéresse.
Très c'est bien. Sympa, merci Jérôme.
Une
belle équipe, une belle équipe. En carton-pâte, l'équipe de bras cassés. On attaque
comme
très
on l'aime, j'ai envie de dire.
Exactement.
Vous allez dans quelques instants, messieurs, nous donner votre avis sur ces deux premières étapes espagnoles. Et nous évoquerons le favori de ce Tour de France, Tadej Pogacar. Et les perspectives aussi du premier Tour de France du bisu, Paul Sexas, et je vous propose de se mettre tout de suite dans l'ambiance.
C'est parti pour le sprint final. Van der Poel en force. Van der Poel avec Pogacar dans sa roue. Pogacar, Van der Poel, Pogacar, Pogacar. Van der Poel qui s'impose devant Tadej Pogacar, troisième. Est-ce que Tadej Pogacar est plus costaud que Vingegaard? Il est collé Vingegaard. Est-ce qu'il va réussir à attraper la victoire de Tadej Pogacar devant Vingegaard? Tadej Pogacar, champion du monde, champion en Bretagne, il s'impose à Mur.
Je suis quand même venu pour vous annoncer quelque chose de particulier. C'est que en juillet prochain, j'aurai quand même une course.
Paul Sexas qui va réussir à s'imposer normalement au sommet du mur de Huy. Il grimace, Paul Sexas, c'est dur cet effort. Mais Paul Sexas va s'imposer sous le vainqueur le plus jeune de l'histoire de la Flèche. Voilà, deuxième place pour Paul Sexas pour le deuxième monument de sa carrière. C'est juste exceptionnel ce qui nous réserve à l'avenir le coureur français de 19 ans après sa victoire sur la Flèche Wallonne mercredi.
Soleil, des guitares, des artistes, voilà, on est dans l'ambiance, effectivement, on a entendu.
Et là, c'est plutôt de la musique cubaine, non?
Ouais, on a.
Là, on fait le départ du tour à Cuba,
ouais,
quoi.
Tu connais tu connais les liens qui existent entre l'Europe et l'Amérique du Sud, évidemment, on va voyager pendant tout ce Tour de France, on va revenir très rapidement, surtout vers la France, parce qu'on rappelle que c'est pas la Vuelta, quand même. Et on aura, quand même, ces deux premières étapes. À Barcelone, d'abord le contre-la-montre, ça sera dès ce samedi, contre-la-montre par équipe, avec des règles du jeu un petit peu particulières, on va pouvoir en parler dans quelques instants. Deuxième étape entre Tarragone et Barcelone pour dimanche, et puis la remontée vers les Pyrénées-Orientales, vers la France, et cette première chaîne des Pyrénées pour le peloton du Tour de France qui arrivera donc très très tôt dans cette édition. Je vous propose de commencer justement par cette première étape de samedi, l'évoquer avec tout de suite un premier briefing, le briefing de Jérôme, et aujourd'hui on aura même deux pour le prix. C'est parti.
Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Jérôme Coppel, spécialiste de l'exercice, du chrono, il faut le dire, champion de France en
2015, ça fait 11 ans déjà quand même.
11 ans,
ça se voit.
Ça date. Ouais, j'ai reçu depuis 11 ans.
Ça passe vite, effectivement.
Alors, il y a bien longtemps que tu as reçu, on n'a pas attendu cette année.
On a donc cette nouvelle formule de contre-la-montre, un contre-la-montre par équipe, mais aussi un petit peu individuel. Est-ce que tu peux nous expliquer et surtout bien nous donner ton avis sur ce samedi un peu particulier?
Ouais, alors déjà, il est particulier pour plusieurs raisons, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a plus vu le tour commencer par un chrono par équipe. La dernière fois, c'était en 1900. 1971, il y a 55 ans. Donc, à part Christophe Cessieu qui commentait déjà cette édition-là, nous, on connaît ça par les archives.
Tu n'avais pas été sélectionné cette année-là.
J'avais pas été sélectionné.
Mais il y a déjà eu des d'autres contre-la-montre par équipe pendant...
Ah oui, d'accord. Voilà, qui commence... Étape, oui. Ah, écoute ma chronique, Christophe, j'ai bossé quand même.
On pouvait se concentrer,
Christophe. La première étape, la dernière fois que le Tour de France a commencé par un chrono par équipe, c'était en 71. Mais tu l'as dit, Pierre-Yves, les règles ont un peu changé depuis. Donc, ce n'est plus les chronos par équipe qu'on a connus avec GG. Parce qu'aujourd'hui, les 8 coureurs partent ensemble, mais chacun obtient son temps individuel en passant la ligne. En gros, on part ensemble, on part tous ensemble, mais à l'arrivée, chacun repart avec son propre chrono. Moi, je trouve personnellement qu'on perd un peu l'ADN du chrono par équipe. Je suis pas du tout fan, je vais être assez cash, j'aime pas du tout cette nouvelle formule. Donc avant, c'était, comme on a connu avec GG, c'était un vrai effort collectif. Fallait rester soudé, fallait attendre un équipier, parfois même attendre ton leader pour arriver à 4 en espérant perdre le moins de temps possible. Et la performance, c'était vraiment une performance d'équipe. C'est là qu'on voyait la force collective d'une équipe. Là, on a perdu un petit peu ça. On se retrouve plus dans un espèce de train de sprinter où tu as chaque coureur qui devient l'étage d'une fusée pour lancer son leader. Donc en gros, ça va bourriner jusqu'à ce qu'ils aient plus rien dans le moteur, ils s'écartent et ça sera le coureur suivant qui va faire la même chose jusqu'à catapulter un Pogacar, un Paul Sexas ou autre. Alors ouais, c'est spectaculaire, mais pour moi, c'est plus vraiment le chrono par équipe. Je pense que ça mériterait presque un autre nom d'ailleurs. Est-ce qu'on peut encore appeler ça chrono par équipe? Bon, c'est pas vraiment le sujet du briefing. Mais même si je suis pas fan du principe, je dois reconnaître qu'il y a quand même des choses sympas à analyser. En fait, on assiste presque à deux courses en une. Tu as les équipes qui vont viser que la victoire d'étape et tu as les équipes qui vont déjà penser au classement général. Et finalement, les stratégies, c'est différent. On rentre déjà un peu dans une partie d'échec. Une équipe qui vise que le classement, que la victoire d'étape, pardon, c'est assez facile. Elle va décider d'envoyer les meilleurs rouleurs au début sur, on rappelle, le parcours fait 19 km, mais les 16 premiers sont quasiment pleins. C'est urbain, par contre, ça tourne un petit peu, mais les 16 premiers kilomètres sont plats.
Légère montée, quoi.
Ouais, c'est très léger hein, quand ils sont à chrono par équipe. Et vraiment le final avec deux petites bosses. Donc les équipes qui visent que la victoire d'étape, eux, ils vont mettre leur meilleur rouleur à l'avant pendant 10 ou 15 km avant que le meilleur rouleur de l'équipe ou le leader s'envole pour essayer d'avoir le meilleur temps possible. Et à l'inverse, une équipe pourrait choisir de laisser un coureur avec le leader, le protéger jusqu'à la fin pour pouvoir catapulter son leader au moment opportun dans la dernière difficulté à 800 mètres de l'arrivée. Parce que le chrono par équipe, c'est un peu un jeu d'échecs finalement. À quel moment on sacrifie ses équipiers jusqu'au coup, on accompagne son leader jusqu'à la ligne en espérant perdre le moins de temps. Et là, il y a en plus autre chose en jeu. Il y a le maillot jaune qui rentre en jeu. Le premier maillot jaune du Tour de France. Bien sûr, tous les coureurs rêvent de le porter. Mais on connaît ce que le maillot jaune implique. C'est aussi les interviews, le protocole et la fatigue qui va avec. Et éventuellement, le poids de la course dès le lendemain. Alors pourquoi est-ce qu'une équipe comme UAE, par exemple, ne vont pas essayer de garder un Del Toro avec Tadej Pogacar et faire passer Del Toro devant Pogacar pour que ce soit lui qui ait le maillot et pas Pogacar? C'est un scénario qui existe, je suis obligé d'en parler, j'y crois pas du tout. Une victoire d'étape sur le Tour, ça a trop de valeur pour commencer à faire des calculs dès le premier jour. Mais c'est un scénario qui est possible. Maintenant, niveau favori, qu'est-ce que ça donne? Visma Lead the Bike, bien sûr, ça reste une référence dans ce type d'exercice. Ils savent rouler ensemble mieux que personne, ils sont toujours très bons sur les chronos par équipe. UAE, je viens d'en parler, ils possèdent peut-être sur les 3 semaines l'effectif le plus complet. Alors, ils seront dans le match pour le chrono par équipe. Je ne crois pas trop à la victoire d'étape. Red Bull Bora, bien sûr, autour de Remco Evenepoel, Lipovitz. Ils ont de l'expérience. Ils ont le meilleur rouleur du monde. Mais c'est jamais difficile, c'est jamais facile de gérer deux leaders sur un effort comme ça, sur un chrono par équipe. Et après, moi, il y a une équipe qui me fait vraiment presque peur sur le papier. C'est Net Company Ineos. Quand vous alignez Ghana, Tarling, Godon, Foss, Bernal ou Arensman dans le même train, ça commence à faire très, très peur. Et derrière eux, on a Kevin Vauclin qui réalise un super début de saison, surtout sur les chronos. Ah oui, Pogacar, Vingegaard et Evenepoel restent les grands favoris, mais avec le parcours, le règlement, les équipes qu'on a devant nous, je crois sincèrement que samedi soir, on pourrait avoir un premier maillot jaune français.
Alors, oui, parce que tu penses que ce sera priorité à Vauclin dans cette équipe, parce que quand
j'espère.
Tu vois le nombre de leaders qu'il y a,
pourquoi pas Bernal.
Des garçons comme Bernal qui a déjà gagné le Tour, comme Ghana qui est quand même le meilleur rouleur.
Il y a une question physique,
Gégé,
il y a une question
quoi,
physique, mais après il y a une priorité politico-sportive.
Sûr,
c'est soit le meilleur coureur, soit on fait un choix au départ.
Voilà,
Ghana est la star de l'équipe, Tarling est britannique, Ineos, on le rappelle, est une équipe britannique. Et Kevin est leader désigné et est français sur le Tour de France.
Il y a
trois choix.
Il y a pas d'espagnol.
Je reviens juste à un truc qui est juste monumental de ce que Gégé vient de dire, c'est que dans la liste d'Ineos, il a pas cité un mec qui s'appelle Michael Katowski et qui a été à son époque l'un des plus gros rouleurs du peloton.
Il n'y a rien acheté.
Il y a rien acheté.
Et ouais, à mon avis, ça va se battre, mais je pense que ça se fera peut-être même à la pédale dans la dernière difficulté. Mmh. Pour moi, c'est entre Ghana et Vauquelin. S'ils
mais
ont
tu
vraiment
crois que ça,
la
ça
marche,
va se faire à la pédale
c'est pas
entre
désigné.
Les deux.
Je sais pas. J'espère pour
désigné.
Eux que c'est désigné.
On sait que dans cette équipe, sauf les gars Marseillais, rappelez-vous quand
attention,
même.
Attention,
ça, c'était
quand même.
Il y a quelques années.
Ouais, ouais.
Ce qu'est en train de dire Jérôme, c'est aussi qu'il ne faut pas oublier les gars, que c'est 19 bornes à 60 à l'heure dans les rues de Barcelone, avec un faux plat montant à partir du kilomètre 4 ou 5, ouais. Même si c'est des légers, et que Kevin Vauquelin n'a pas donné de garantie depuis le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il est
attention, en chrono, il a toujours été là. Il a toujours été moteur de l'équipe.
Élément central. Va-t-il être capable de ne pas ralentir Ghana? C'est ça qu'on va
c'est
lui
ça.
Demander.
Mais justement, c'est pour ça que je dis que la stratégie n'est peut-être pas encore établie si c'est Vauquelin ou Ghana. Ghana, s'il est plus fort, il ne va pas attendre Vauquelin, à mon avis. Sauf si... ils ont peut-être d'autres données qu'on n'a pas. Kevin Vauquelin n'a pas fait les championnats de France parce qu'il était malade en plus. Donc, il y a aussi une petite inconnue. Donc, ils n'ont peut-être pas des garanties à 100% sur Kevin Vauquelin. Mais c'est leur seul coureur pour le classement général. Donc, ça serait déjà un peu chaud de dire à Ghana, bah, tu fais ta dernière montée et tant pis pour Kevin Vauquelin. On verra bien ce qu'on veut, c'est le maillot jaune.
Il y a deux Français dans cette équipe quand même. Il y a aussi Dorian Godon. On peut peut-être faire le choix de Godon.
Mais après, à mon avis, Ghana va faire la dernière montée le plus vite possible. Vauquelin va s'accrocher, si ça va, éventuellement le relayer. Et s'ils arrivent tous les deux, j'espère qu'ils feront passer Vauquelin.
N'oublions pas la frustration de Kevin Vauquelin lors du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Et à Paris-Nice.
Honley, son saut de chaîne, à Paris-Nice également. Est-ce que là, on ne va pas avoir envie un peu aussi de le récompenser?
Et il faut qu'il soit physiquement capable.
De suivre.
Et pour l'instant, il a été malade. Voilà, nous, on est évidemment persuadés que Kevin, en contre-la-montre par équipe, et en contre-la-montre tout court, est un des tout meilleurs de ce peloton. Maintenant, est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il est en condition? Ça va être la problématique. Parce qu'on va, vite voir, sur ce type de parcours, Jérôme, tu confirmes, on ne peut pas se cacher.
Non,
que tu ne peux pas faire les roulettes et finir en passant devant Ghana au dernier moment. Si tu dois passer en tête, c'est que tu as été capable physiquement de monter très vite cette dernière difficulté ici vers Montjuïc et d'être costaud, de passer du relais avec des machines. Si tu n'es pas bien, moi, tu me mets moi chez Ineos, je pense que je fais deux bornes et je suis popcorn.
Mais tu vois, avec cette nouvelle
forme... Cette année-là.
Surtout dans la condition cette année. Avec cette nouvelle... Face à des gros rouleurs, je peux vous en parler. J'ai fait des contre-la-montre par équipe dans des équipes où tous étaient très, très forts. C'est le regret de ma carrière puisque j'ai passé un relais à Monaco, à Nice, pour soulager l'équipe un peu. Et on a perdu pour un centième. Donc, je me suis dit, peut-être que je n'aurais pas lu passer. Et c'est resté longtemps.
Victoire de Rika...
Mais avec cette nouvelle formule, tu peux économiser ton leader ou quelqu'un qui sera un petit peu moins bien sur la première
pour
partie, justement,
ouais,
pour gicler sur la fin. Donc là, il y a toute une stratégie à mettre en place.
Christophe, on entend beaucoup parler de cette équipe avec Kevin Vauquelin, mais on ne peut pas faire abstraction de Pogacar et de la qualité du collectif et pourquoi pas de la volonté d'aller chercher un maillot jaune pour Pogacar tout de suite ou alors de se dire on ne fait pas supporter à l'équipe tout de suite. Alors, ça peut être dimanche,
après,
par contre.
Après, tu peux aller le chercher et tu peux
le
perdre
et
peux laisser faire une échappée dimanche ou lundi en direction des angles, en contrôlant. Tu peux juste marquer les esprits. On a vu que tout au long de la saison, il a voulu marquer les esprits. Est-ce qu'il va vouloir le faire aujourd'hui, récupérer ce maillot et ensuite le relâcher demain après-demain? Avec lui, on ne sait jamais, mais on sait qu'il a envie d'appuyer sur la tête de ses adversaires et dès le début.
Ouais, c'est en plus un marqueur très fort psychologiquement de prendre le maillot et de bien montrer à tout le monde, on le laisse pour mieux le récupérer, c'est encore plus fort que de dire, on ne le prend pas. Après, sur un contre-la-montre par équipe, et là, GG, le spécialiste, forcément, va nous en dire encore un peu plus.
Mais déjà, il n'y aura
pas... Tu ne fais pas en dedans, tu ne peux pas calculer.
Non, tu ne fais pas en dedans. Il n'y aura pas de gros écarts sur ce parcours-là, il fait que 19 km 600.
Il y aurait quoi, à ton avis, comme écart entre les premiers?
Entre qui tu parles? Entre les favoris, par exemple?
Entre Ineos et
si on prend les favoris, Vingegaard, UAE, Decathlon avec Sexas, etc., ceux qu'on pense pouvoir jouer un top 5, par exemple, franchement, s'il y a plus de 30 secondes, t'as quand même, alors c'est pas du tout rédhibitoire, mais t'es quand même un peu passé au travers de ton chrono. Ouais. Mais si on prend UAE...
On se rappelle que, par exemple, Decathlon est un peu passé à côté de son chrono lors
et,
du...
Et là, si on va un peu là-dessus, bon, moi, l'erreur ce jour-là au Tara, c'est Paul Sexas qui l'a fait.
Il les a mis
en dur. Il l'a fait parce qu'il est trop fort. Parce que Danouleux lui dit ralenti, c'est trop tard. Il a déjà mis Bisseger et compagnie dans le rouge.
Alors il y a aussi ce jour-là.
Mais le parcours est différent.
Ouais, la bosse était au milieu. Voilà. Et il y a un coureur qui a été aligné sur cette préparation et qui n'est pas sur le tour, qui s'appelle Stéphane Bisseger, qui n'était pas dans la forme.
Non.
Dans laquelle on l'attendait.
Donc il a la raison pour laquelle il a été écarté du tour.
Mais
d'ailleurs.
Si une des raisons pour lesquelles. Si on revient, c'est pour UAE, est-ce que Tadej Pogacar peut prendre le maillot? L'équipe, elle est incroyable pour 3 semaines. Donc Pogacar, Del Toro, Groschartner, McNulty, Polit, Vermeersch, Wellens et Yates. Elle est incroyable pour 3 semaines, mais sur un chrono par équipe, quand on vient de citer l'équipe de Netcompany Neos, par exemple, pour moi, ils ne font pas match avec eux.
Non, c'est moins
ils ne peuvent pas gagner l'étape. Ils ne vont pas prendre un carton, mais ils ne peuvent pas gagner l'étape.
Il y a plus de grimpeurs.
T'as qui comme rouleur? Pogacar roule bien, McNulty, Polit, Vermeersch, Wellens, qui se débrouille un peu, mais ce n'est pas le calibre de
Godon, Ineos, ni de Visma.
Sachant que Pogacar...
Mais Pogacar, il va pas faire la différence tout seul non plus. Tu vois.
Ghana Tarling, Tobias Foss, qui d'un autre côté, Affini, Vingegaard est très très bien entouré.
Kampenaert,
Jorgensen, notre français.
Armirail,
bien sûr.
Ça va aller très vite. Du côté de Red Bull, on a des grands rouleurs. Et par contre, on peut laisser Remco tout faire. On peut lui prendre 2-3 relais, mais Remco tout seul va faire des meilleurs temps certaines équipes qui vont tourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se projeter un petit peu et on peut se dire que samedi soir, potentiellement, si chaque équipe réussit son chrono, mais Tadej Pogacar, il peut être le 5 ou 6e des grands favoris de ce tour au classement général. Quand on reprendra, ce sera lui, peut-être samedi soir déjà, aura du temps de retard à aller chercher. Et tant mieux pour la course.
Il aura déjà perdu le tour samedi soir. Incroyable.
15 secondes de retard, Pogacar est-il en danger?
Tant mieux pour la course. Pourquoi les garçons? Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Sur ce Tour de France, pour gérer un maillot jaune, ça va être très difficile. Ça va demander une très, très grande équipe. C'est très dur, c'est très long. Et le Tour de France, chaque 2 jours, il y a des étapes casse-pattes, des étapes difficiles à gérer.
Il va faire très, très chaud la
Et quand il y aura des groupes à sortir, il faut aller chercher les gars, il faut filtrer. Dès les premiers jours, dès la course va partir vers les angles, et c'est déjà une étape dangereuse pour contrôler. Je ne dis pas pour le classement général, mais pour contrôler. Donc, pour moi, Tadej Pogacar, évidemment, cette équipe va faire le chrono à fond, mais quand tu es un peu en retrait et que tu es là à regarder à 15-10 secondes derrière, c'est bien mieux que d'avoir ton maillot pour 4 secondes et à tout gérer pendant une semaine.
Puisque nous sommes déjà, on a la chance d'être déjà installés à Montjuïc, on avait envie de vous parler aussi de la deuxième étape, celle de dimanche. Et ça nous vaut un deuxième briefing de Jérôme pour le Prix d'Ain. C'est tout de suite.
Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Mais l'autre Jérôme,
Pinot. On s'y perd avec ces Jérômes.
Eh oui.
C'est pas mal pour le jingle.
C'est pour économiser le jingle. Toi.
Non, mais Jérôme, étape de dimanche.
Je vais vous parler de cette fameuse étape de dimanche. Effectivement,
en ligne, Tarragone-Barcelone.
Alors, première étape en ligne, avec, dans l'autre sens.
Oui,
dans l'autre sens. Avec une particularité, rarement sur le Tour de France, on commence un chrono par équipe. Tu l'as dit, Gégé, ça fait très longtemps, dans les années 70. Et pour une fois aussi, et ça, c'est encore plus rare, un circuit final à l'arrivée, trois passages sur la ligne, 2 tours et demi environ, avec 3 passages.
Génial. Ça va être de la folie. Hein,
c'est le monde. Ça va être un peu un scénario à la Mur de Bretagne qu'on connaît bien et qu'on aime tant chez nous. Et à ce petit jeu, c'est assez particulier. Jérôme, tu confirmes, on peut pas avoir une même étape. C'est différent d'arriver sur un circuit parce que on sait. Bizarrement, c'est comme ça dans le peloton, il y a des hommes de circuit, il y a des hommes de championnat, il y a des hommes de circuit. Et là, sur cette arrivée à Montjuïc, qui est une arrivée difficile, mais pas insurmontable. On a parlé, tu as des Pogacar, le chrono la veille, est-ce que le lendemain, il peut déjà faire un numéro? Je ne pense pas. L'arrivée, la montée finale du circuit, 1 km 600, est difficile, mais pas insurmontable. C'est quelque chose de puncher, mais c'est aussi une bosse que je pense, 60% du peloton peut passer. Ça va dépendre du rythme, mais si les grands leaders de ce Tour de France veulent faire la différence, veulent commencer à se tester, je prends un exemple, un Michael Matthews est tout à fait capable de gagner à Montjuïc. C'est étonnant, et aussi étonnant que cela puisse paraître, je pense que dans ce cas-là et dans le cas Michael Matthews, ils sont à peu près 40 de coureurs. On ne va pas énumérer tous les favoris de cette étape, parce que je pense qu'il y a... entre les punchers, les leaders du général et les sprinteurs qui passent bien les bosses. Mais aujourd'hui, on enlève Tim Merlier et quelques-uns, ils passent tous bien les bosses.
40.
On sait que
c'est 40 coureurs, tu dis, toi.
Une quarantaine de coureurs qui peuvent gagner cette étape. Alors évidemment,
si c'est Tadej Pogacar qui attaque, contré par Vingegaard et Erwan Ayuso, avec Paul Sexas qui sont, je pense qu'il y a quelques coureurs qui ne pourront pas suivre. Mais je ne suis pas sûr que cette étape fasse des grosses différences et on peut arriver avec un petit groupe qui sortirait et qui s'expliquerait, qui irait gagner l'étape et s'expliquerait au sprint. Et à ce petit jeu-là, bah, y a quelques Français qui peuvent tirer leur épingle du jeu et notamment, on va beaucoup attendre Dorian Godon, qui lui, avec le chrono la veille, sera plutôt bien placé pour le classement général. Et puis un autre qui est devenu champion de France la semaine dernière, qui est sur le parcours idéal, qui est un homme de circuit et qui est un homme de championnat, et tellement un homme de championnat qui porte le maillot de champion de France, évidemment, Romain Grégoire.
En gros, vous êtes en train de me dire que demain, premier maillot jaune, Kevin Vauclin, après-demain, Godon, deuxième maillot jaune français. C'est-à-dire que les
et Romain Grégoire, vainqueur d'étape. On te met la totale, là, c'est la complète. C'est la complète.
Là, on est sur une objectivité maximum.
Non, mais alors, ton scénario,
ça peut arriver. Hein.
J'adore ton scénario.
Romain Grégoire, on l'a dit après son titre, est l'un des 10 meilleurs puncheurs du peloton.
Ouais, mais ton scénario est valable si ça bouge que dans le dernier tour.
Alors, ça va être dur, les gars, à partir du kilomètre 85. Avant, c'est tout plat, on est sur la côte. Ouais. Sur une étape de 168 bornes. Je ne vois pas déclencher des hostilités dans cette montée-là.
Non, mais dans le premier passage. Si ça déclenche dans le premier passage, là, tu perds.
C'est pour ça.
C'est Dorian Godon.
S'il y a la guerre... Pour moi, si on attend, mais tu sais, c'est le circuit qui est quasiment similaire autour de Catalogne, à Huelva Catalunya, comme disait l'Espagnol, c'est exactement le même circuit, un poil plus long. On s'aperçoit quoi ? Que sur le Tour de Catalogne, qui a été très disputé, il y avait un très gros niveau de départ de ce Tour de Catalogne, Dorian vient faire deux, alors qu'à chaque tour, il se mettait peigné sur peigné. On attendait à chaque fois les attaques des uns et des autres, notamment de Remco Evenepoel. Ça pétait, mais ça rentrait. Parce qu'il y a une partie très difficile et tout le côté. C'est une partie descendante et sur la carrière parallèle,
ça rentre.
Le grand boulevard, ça rentre parce que ça se regarde. Mmh. Et ça peut être ce type de course dimanche, à une petite différence, c'est qu'on a parlé d'un championnat, on a parlé d'une course en circuit, on a parlé du Tour de Catalogne, ça reste le Tour de France et dans le Tour de France, tout est très
Il
n'y
a pas
différent.
Le même plateau sur le Tour de France que sur le Tour de Catalogne.
Et je rajoute un élément, Jérôme, à ton briefing. Tu as parlé du classement général, il y a un maillot jaune à aller chercher, il y a une victoire d'étape, évidemment, et il y a un maillot à poids, parce que première étape où il va y avoir des points, pas mal de points d'ailleurs à aller chercher. Et là aussi, il y a quelques Français qui ont annoncé que c'était un objectif. Est-ce qu'une échappée, Jérôme Coppel, peut se créer dans cette journée, notamment avec cette première difficulté, la côte de Bègue, à 85 km de l'arrivée, avec un garçon comme Lenny Martinez, par exemple, qui en a fait un objectif ?
Alors, oui, une échappée peut se créer. Il y aura forcément une échappée, ça, c'est certain.
On rappelle que l'une des équipes invitées s'appelle Cararoal Seguros.
Voilà. C'est sûr qu'il y aura une échappée. Jusqu'où elle va aller ? Oui, elle va peut-être prendre les points à la première difficulté du jour, mais peut-être qu'elle sera déjà revue sur le circuit final, donc il n'y aura pas beaucoup de points. Et tu parles de Lenny Martinez. J'espère ne surtout pas le voir dans l'échappée dimanche. Parce que lui, il faut qu'il aille chercher là où il y a des gros points. Il ne faut pas qu'il perde de l'énergie là pour aller chercher 2 ou 3 points dans la journée. Ce n'est pas son objectif à lui. Ce n'est pas là que tu construis ta victoire.
On sait qu'il a mûri, d'ailleurs, par rapport à ses
Donc voilà, ça, c'est bien quand tu es jeune. Maintenant, il a mûri, il a de l'expérience. Il a déjà fait plusieurs fois le tour. Donc, il ne faut pas aller perdre de l'énergie pour aller gagner une poignée de points qui ne vaudront plus rien quand on va arriver dans les Pyrénées et les Alpes.
Et Christophe, j'ai envie de te reposer la même question que sur le briefing précédent. Parce que là, on a aussi une étape qui peut convenir à merveille à un Tadej Pogacar. Et qu'il a envie de taper du poing sur la table.
Oui, là aussi, il aura peut-être envie de montrer qu'il est le patron. Surtout si, comme on le disait tout à l'heure, il termine 5e ou 6e des grands leaders dans le chrono par équipe. Peut-être que dimanche, il voudra rectifier la donne en disant « Ok, j'ai peut-être pas les meilleurs rouleurs de la Terre avec moi, mais regardez qui je suis quand même. » Ça, il peut vouloir le faire. Mais alors attention, c'est pareil, est-ce qu'il aura envie d'aller chercher
Est-ce qu'il a envie d'aller prendre le... En fait, c'est toujours, et ils savent très bien le faire, c'est pas un problème, mais c'est toujours... T'es au début du tour, et c'est toujours la balance risque-bénéfice. Est-ce que ça va changer vraiment quelque chose à Tadej Pogacar d'aller gagner une étape ? Si oui, c'est uniquement s'il crée un gros écart. Jérôme, dans son briefing, l'a dit, c'est pas non plus une montée qui est insurmontable, donc il va pas coller une minute à tout le monde dans cette montée, même 40 secondes. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire un effort, d'aller gagner ? T'es toujours gagné une étape, ok, mais prendre le maillot jaune pour ensuite t'en débarrasser ? Je sais pas.
Alors,
faut bien tout mettre dans la balance.
Je fais partie de ceux qui pensent qu'il va jouer la victoire d'étape dimanche, si et seulement si l'ouverture se présente et que ses adversaires bougent.
Ah, bah, il va pas freiner.
Ça, si ça bouge un peu. Je ne vois pas Tadej Pogacar tel qu'on le connaît aujourd'hui. À partir du moment où on joue, C'est-à-dire, on attaque, il va jouer avec eux.
Ouais,
et
ouais,
quand il joue avec eux, bon, les autres sortent de la chambre. Voilà, s'il peut leur mettre une petite tape au passage. Et puis, gagner cette étape, ça veut peut-être dire prendre le maillot ou pas. Mais l'étape idéale pour laisser filer un groupe et pour laisser filer le maillot jaune, c'est celle du lendemain, vers les angles. Donc, finalement, c'est un protocole. L'hôtel, il est en bas. Il va rentrer quasiment à vélo.
Oui,
l'hôtel,
non,
c'est pas très fatigant. Et la petite claque pour leur dire, les gars, je suis là. Vous avez vu autour de Suisse déjà, hein.
Oui.
On a blablaté sur les Paul Sexa, sur les Vingegaard, machin. Il a dit première étape, bam. Vous vous rappelez, c'est moi qui vous mets des tôles tous les étés. Je me suis un peu entraîné, je me suis transformé de coureur, parce que la transformation, elle est incroyable, de coureur de classique à Paris-Roubaix.
Ah oui, incroyable.
Et je me suis transformé
on l'a vu,
encore.
Je suis redevenu
le coureur de course par étape. Ne m'oubliez pas, je suis là. Si je peux vous mettre une petite fessée dès le dimanche pour vous rappeler que c'est moi le plus fort, il le fera évidemment.
Je l'avais pas revu moi depuis Paris-Roubaix. C'est pas le même mec. Pas le même mec. Le visage affûté.
Ouais.
Bon, alors après, il a changé
de
couleur de cheveux.
Aussi, hein.
Oui, c'est affiné.
Oui, c'est affiné. Mm. Mais tous, Evenepoel, je sais pas si vous avez vu ça.
Oui.
Il est, j'ai jamais vu comme ça.
Alors, Evenepoel, il a expliqué avoir perdu avec tout le staff de Red Bull Borans-Greu de s'être affûté et sous contrôle de ses nutritionnistes et de ses entraîneurs en gardant les... En fait, il a perdu du poids, il a fait des tests de puissance.
Oui,
bon, c'est bon,
mais
on peut
c'est
y aller.
Garder la puissance, garder le muscle.
Mais, mais c'est ça.
Parce qu'il n'avait pas fait il y a deux
le vélo, ça reste...
Oui, parce qu'une année, il était arrivé très affûté.
Ouais, mais il avait...
Le vélo, ça reste de rapport poids-puissance. Donc, si tu maigris mais que tu perds ta puissance, bah, ça ne te sert à plus rien, en fait.
C'est
donc, c'est trouvé... Les premiers qui avaient réussi à faire ça, c'était la Sky avec Wiggins, notamment, qui était un super rouleur sur la piste, qui avait perdu du poids pour gagner le tour. Mais l'équilibre, il est dur à trouver.
En voilà un dernier client qui peut être très inquiétant sur ce circuit dimanche.
Wiggins ?
Non. Remco Evenepoel est typiquement le coureur qui est excellent sur ce genre de parcours. Fraîcheur, début de tour, pas haute montagne. Il n'aura pas fait encore de haute montagne. Mmh. Il peut, éventuellement, c'est l'un des mecs qui peut suivre une attaque de Pogacar.
On a un petit peu effleuré le sujet, bien sûr, avec cette première partie, mais on va préciser tout ça avec le deuxième sujet du podcast aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait empêcher une cinquième victoire de Pogacar ? Et on va rejoindre nos reporters sur le terrain, et notamment Maria Azé, qui est déjà en pleine activité avec plein de conférences de presse pour ce Tour de France. Non. Elle a arrêté, elle a fait le métier. Et Maria, qui va nous parler justement de Pogacar. Maria, bonjour.
Salut Pierre-Yves, salut tout le monde, salut Christophe, j'ai bien entendu la petite pique pour l'apéro, mais t'en as pris plus que moi je pense depuis le début de ce Tour de France.
Oh, oui, mais ça va être fini parce que demain on rentre dans la.
On était bien dans le tour. On a fait un apéro magnifique avec Maria.
Ah oui ? On n'était pas invités nous. Ma chère Maria, tu as pu prendre le pouls de ce Tour de France, de ce peloton, de ses leaders, et notamment de Tadej Pogacar, grand favori pour aller chercher la Manita, rejoindre les Merckx, les Anquetil, les Hino, avec 5 victoires sur le Tour de France. Mais on se demande aussi un petit peu ce que dit le peloton de lui. Est-ce que tout le monde en fait son favori ? Comment tu juges ce Tour de France pour Tadej Pogacar ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement d'adversité ?
Bah, c'est vrai qu'on le dit un peu tous les ans, j'ai l'impression, mais là, on voit difficilement quand on en parle, quand on en discute dans le peloton, qui pourrait empêcher Tadej Pogacar de remporter son 5e Tour de France. Là, il semble complètement inarrêtable. On a vu sa saison. Il a écrasé le Tour de Suisse, le Tour de Romandie, il a gagné Liège, le Tour des Flandres, l'Estrade Bianche, Milan-San Remo. Enfin, finalement, juste le seul endroit où il n'a pas gagné, c'est à Paris-Roubaix, évidemment, mais il termine 2e derrière Wout Van Aert après une performance exceptionnelle. Donc, on a vraiment l'impression qu'il est dans la forme de sa vie. Il a en plus, vous en avez sûrement parlé, mais une équipe incroyable avec comme principal équipier Isaac Del Toro qui serait clairement leader dans 90% des équipes du peloton. Il est hyper affûté, vous en avez parlé. Il a l'air assez détendu. Hein. C'est vrai qu'hier, on l'a vu en conférence de presse. Vous savez, Tadej Pogacar, c'est un peu quand il veut. Hein. Des fois, il est causant. Des fois, il l'est un peu moins. Hier, il était tout sourire. Il a remercié toute la salle d'être venu pour sa conférence de presse. Voilà, blond, un peu peroxydé, typé Eminem. On sent qu'il est en forme. Pour l'instant, Tadej Pogacar, on l'avait quitté sur le Tour de France l'année dernière, vraiment lassé. Il en avait marre.
Fatigué,
là, on sent qu'il est content. Il est ravi d'être là. On l'écoute justement. Lui a posé la question, évidemment, sur le fait qu'il soit le grand favori de ce Tour de France. Lui, il ne va pas nous dire que le Tour de France est déjà gagné. Il considère qu'il a énormément de concurrents cette année.
Je pense pas qu'il soit le seul à pouvoir se rapprocher de moi. Il y a pas mal de gars ici qui peuvent viser la victoire. Mais bon, la rivalité entre Jonas et moi ces dernières années a bien sûr été spectaculaire, je dirais. Et je pense que ça va continuer encore quelques années. En tout cas, je l'espère. Je pense qu'on se pousse mutuellement vers de nouveaux sommets chaque année, donc oui, on verra jusqu'où ira cette année.
Voilà, donc son principal adversaire, il en a parlé, c'est évidemment Jonas Vingegaard, probablement, qui semble aussi dans une grande forme, hein, selon ce qu'il dit, la forme de sa vie, vainqueur sur les trois courses où il s'est aligné cette saison, Paris-Nice, le Tour de Catalogne et le Giro, pour cocher évidemment la case des trois grands tours remportés dans sa carrière. Mais on l'a interrogé, lui aussi, le double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, un peu la force tranquille, hein, qui est toujours très pertinent dans ses réponses, et il reste tout de même assez lucide sur le niveau de Tadej Pogacar.
Je continue de penser que Tadej est sans doute le meilleur coureur que le peloton ait jamais connu. Donc pour moi aussi, avoir réussi à le distancer est quelque chose de vraiment incroyable. C'est une chose dont je suis extrêmement fier. Et ça me motive aussi à essayer de le refaire cette année pour me donner la conviction que j'ai fait partie de ceux qui sont réellement capables de le challenger.
Voilà, il l'a déjà battu, donc il pense pouvoir potentiellement le refaire cette année. C'est pas gagné parce que le parcours semble quand même taillé pour Tadej Pogacar. Alors de toute façon, on le sait, il est fort partout, hein, sur les contre-la-montre, sur les étapes de montagne, même sur les étapes un peu accidentées, type puncher. Surtout, il y a cette avant-dernière étape de l'Alpe d'Huez, 5600 mètres de dénivelé positif, peut-être l'une des étapes les plus dures que le Tour de France a connues depuis quelques années. Alors on imagine bien le Slovène écraser le Tour là-bas. Après, tout peut arriver évidemment sur un Tour de France. On a un gros plateau, on le disait, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Paul Sexton, ça, c'est évidemment Florian Lipovic, enfin, beaucoup de concurrents pour Tadej Pogacar. Il y a trois semaines de course, il y a de la chaleur, il y a des faits de course qui peuvent arriver, des mauvais placements, donc rien n'est encore gagné pour Tadej Pogacar, même s'il part quand même peut-être avec quelques longueurs d'avance.
Merci beaucoup Maria. Messieurs, l'adversité, c'est la principale surveillance que doit avoir Tadej Pogacar. Et ça inspire une autre question sous-jacente, c'est est-ce que finalement le plus grand ennemi n'est pas à l'intérieur de sa propre équipe, c'est-à-dire avec, comme le disait Maria il y a un instant, un Isaac Del Toro qui serait tout à fait capable de l'emporter et qui va peut-être à un moment en avoir marre d'être l'équipier modèle.
Non, je ne pense pas qu'il ait la mentalité qu'il y avait Ayuso, où effectivement Ayuso, lui, n'avait pas du tout envie de se mettre au service de son leader. Del Toro, pour l'instant, est encore complètement inféodé, enfin, à mon avis, à Pogacar, et je ne pense pas qu'il ait envie de se mettre à dos toute son équipe, de perdre ses contrats et de ne pas assister son leader. Non, non, je pense
puis il est surtout pas encore au niveau de Tadej Pogacar, et non, ni de Jonas Vingegaard, je pense, Isaac Del Toro. Donc, je ne crois pas que le danger vienne de l'intérieur de son équipe. Et on pense ce qu'on veut de Gianetti, Machin et de l'équipe UAE, mais ils savent plutôt bien manager ça quand même. Ça a été un peu le feu avec Ayuso, mais ils l'ont mis dehors du tour. On rappelle quand même Covid, c'était un peu un truc de surface. Donc quand il y a un problème, ils taillent dans le vif. Ils ne se posent pas trop de questions. Donc ils arrivent quand même à toujours bien gérer ça. Moi, la seule chose qui pourrait faire perdre Tadej Pogacar, c'est un fait de course. Sinon, sur le papier, même Jonas Vingegaard qui est très fort, même Paul Sexas, même Lipovic, Remco Evenepoel, qui on veut, pour l'instant, il est seul sur sa planète, hein, Tadej Pogacar. Et Vingegaard, jusqu'à preuve du contraire, on aura la réponse dans trois semaines, il est seul aussi sur sa planète, mais en dessous de Tadej Pogacar. Et ensuite, on a une petite planète avec 3-4 coureurs sur la même planète.
Il y a quand même une grosse incertitude concernant Vingegaard. Est-ce qu'il aura récupéré son niveau qui lui avait permis de remporter les deux Tours de France, mais où Pogacar était moins fort qu'aujourd'hui?
Est-ce que ce niveau-là suffit aujourd'hui?
Est-ce que ce niveau-là suffit aujourd'hui? Est-ce que le Giro va lui rester dans les pattes, ou au contraire, comme il le dit, lui permettre d'être encore plus fort dans un deuxième grand tour? C'est ce qu'on nous vend comme soupe. Mais
il a dit un truc.
Moi, j'ai plus d'interrogations sur Vingegaard et sur Sexas, évidemment, de savoir s'il tiendra les trois semaines. Mais Vingegaard, j'ai hâte de savoir ce qu'il vaut vraiment, parce que c'est la première fois qu'on va le voir opposé à Pogacar cette année.
Il a dit un truc
Il l'a dit hier à sa conférence de presse que Jonas Vingegaard qui se sentait pas du tout cramé après le Giro, hein, qu'il avait pas laissé tant de plumes que ça, qu'il avait bien été entouré par ses coéquipiers. Il a pas eu, enfin, il s'est pas trop cramé, il a pas trop roulé, il a pas donné trop d'efforts, donc globalement que le Giro l'avait pas trop impacté sur sa préparation pour le Tour.
Mais surtout, il a dit dans la même interview, il a dit « je me sens très bien, j'ai bien récupéré du Giro et surtout, je suis beaucoup plus heureux que l'année dernière ». et un coureur heureux psychologiquement, si tu arrives bien, tu es déjà mieux. Ouais. Par contre, ce que tu viens de dire sur son niveau, je pense réellement que Jonas Vingegaard est plus fort maintenant que quand il gagnait ses tours. Par contre, ce niveau-là ne suffit plus depuis trois ans. Et je pense vraiment qu'il est meilleur qu'avant que quand il gagnait ses tours, mais tout a progressé et surtout Tadej Pogacar.
Et trois semaines de grand tour, c'est un peu comme un stage en altitude. Ça renforce les forts et ça affaiblit les faibles. Trois semaines de grand tour pour Jonas Vingegaard, ça va le rendre plus fort.
Mm-hmm. Pour un coureur moyen. Mais tu dis, il y a quand même, il risque de payer au bout de la troisième semaine.
De toute façon, s'il paye quelque chose, il le paiera en troisième semaine. C'est l'accumulation des jours de course à haute intensité et la pression qui incombe à cette.
Mais
à
c'est quand même un coureur de troisième semaine. Hein, il l'a montré.
Toujours un coureur de troisième semaine. Et je me surprends toujours quand je dis ça, mais c'était pareil l'année où Pogacar a doublé Giro Tour. C'est que des coureurs comme eux, avec l'adversité qu'ils avaient chacun leur année sur le Giro, c'est moins dur de faire un Giro que de faire un stage en altitude.
Que de faire trois semaines en altitude.
Psychologiquement, des efforts tout seul, etc. C'est quasiment plus facile pour des coureurs comme eux. Donc, moi, j'y crois en Jonas Vingegaard. Pas pour aller, en tout cas pour chatouiller un petit peu Pogacar.
Ce qui serait magnifique, c'est qu'il le chatouille un peu plus que les années précédentes, qu'il s'accroche notamment dans les premières étapes de montagne et qu'il y ait du suspense au moins jusqu'à la deuxième.
Si déjà il arrive à rester dans la roue, même à sucer la roue, on lui reprochera pas ça.
Justement pas. Il a rien à perdre. Vingegaard, depuis quelques années, il se fait taper dessus. Voilà, faut qu'il tente, faut qu'il devance.
Il a déjà réussi sa saison en remportant son Giro.
Donc en fait, faut pas qu'on dise ça serait bien s'il arrive à s'accrocher le plus longtemps possible. Non, c'est lui qui doit provoquer le premier et qui doit essayer de désorienter un peu Tadej Pogacar. Parce qu'en suivant, il va se faire battre. Donc, tente autre chose. Tu as déjà gagné ton Giro, tu as déjà fait une fois deuxième. Tenter quelque chose sur des étapes de plat, des bordures. On ne sait pas s'il y aura du vent. Visma, c'est spécialiste. Pourquoi pas tenter des choses.
Je suis de ceux qui pensent aussi que l'adversité de Tadej Pogacar doit mettre son ego dans sa poche et d'accepter d'être moins fort que lui. Et à partir du moment où ils acceptent...
Mais d'être peut-être plus malin.
Dans les déclarations...
Comme
ils
y avaient fait,
justement. Ils le font dans les déclarations. Dans les déclarations, Tadej est si fort, Tadej au-dessus. Mais sur le vélo, ça ne se voit pas tout le temps. J'entends par là qu'une chasse, un trou à boucher, une échappée à aller chercher, un placement dans le final, une approche de finale comme dimanche. Et on les voit tous les mêmes. L'équipe d'Ayuso, parce qu'il a un boulard comme ça, donc il fait rouler ses gars, comme ça au moins il va faire premier de l'équipe, parce qu'il a aussi ce problème-là.
Mais il va marcher Ayuso, par contre.
On voit parfois les Décathlon CMA venir donner un coup de main, on voit les Visma, il ne faut pas que ça arrive. Il faut mettre à mal d'abord le collectif. Tout à l'heure, tu as parlé de Del Toro. Mais si Del Toro, les adversaires arrivent à en faire de lui uniquement le dernier mec devant Tadej. Parce que s'il le fait tous les jours et qu'il a besoin de lui, il va finir par s'écarter et prendre un bon ticket. Et ça fera un de moins pour l'adversité. Il faut absolument user et mettre à mal, et donc mettre au charbon cette équipe UAE au maximum. Je ne dis pas que ça suffira. Pour moi, ça ne suffira pas. Mais
les faire douter.
Au moins faire ça. Ne pas leur filer un coup de main, quoi. Parce qu'eux, ils ne vont pas vous en donner un coup de main. Ils vont vous donner des coups de bâton. Tadej, il va mettre les coups fatals, mais il ne va pas vous donner les coups de main. C'est eux les plus forts. Ils ont le coureur le plus fort du monde. Débrouillez-vous.
Donc, on ne croit plus jamais à une coalition entre équipes pour battre Pogacar, mais en tous les cas, pas lui apporter
pas
de...
Pas mâcher le travail, pas. Dans des moments de course, des faits de course, on appelle au directeur sportif, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Gégé, gardez votre sang-froid.
Je suis d'accord.
Et jouez avec eux.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais tu sais que le tour est plus grand que ça.
Et la deuxième place, et la troisième place vont vite entrer en compte.
Tu crois que l'équipe Décathlon, on va pas s'étendre là-dessus, parce qu'on va parler après de Paul Sexas, mais tu penses que Décathlon vont pas jouer leur rôle autour de Paul Sexas, quitte à indirectement aider UAE pour qu'ils puissent être sur le podium. Donc en fait, le tour est tellement gros que indirectement tu finis toujours par aider l'équipe du plus fort. Ça a toujours été comme ça. Les années Armstrong, on va pas en reparler, mais il y a aussi des équipes qui finalement directement donnaient des coups de main à l'US Postal, alors qu'ils se faisaient taper dessus à toutes les étapes.
Moi, je me souviens d'une avec un stratège à sa tête qui s'appelait Brioche la Boulangère, et je me souviens avoir roulé un jour côté de l'US Postal.
Bah, Sky, on se faisait taper dessus.
Il devait nous laisser une étape, on l'attend toujours d'ailleurs. Ouais.
Faisait taper dessus tous les jours avec Sky, et il y avait quand même des équipes qui allaient aider. Ça a toujours été comme ça, parce que le tour est plus grand que le reste.
Pour battre UAE, il faut au minimum essayer de faire ça. Au minimum.
Juste pour revenir sur Vingegaard, est-ce qu'en plus, son équipe n'est pas un peu plus faible qu'à une époque? Il n'y a pas Wout van Aert, on le rappelle. Et quand on regarde la liste...
Quand on regarde la liste, est-ce que c'est pas un petit peu plus faible?
Christophe Laporte.
Mais il y a un Affini, on ne sait pas dans quel état il est. Il a quand même pris une grosse pelle au championnat d'Italie chrono, donc on ne sait pas dans quel état il va être. Eduardo Affini. Kuss, bah, il a l'air de revenir quand même, mais ce n'est plus le Kuss qui a gagné la Vuelta.
Alors, parce qu'on a dit tout de suite, il a gagné un Giro où c'était facile pour lui, c'était presque plus facile qu'un stage. Au demeurant, il était avec Sepp Kuss, et Sepp Kuss, il a pas été transcendant au Giro.
Non.
C'est plus le
Sepp Kuss. Il a gagné une étape. Attends,
Mais si on les relaie.
Il est revenu.
Non, mais quand il a fallu mettre et pailler tout le monde, j'ai vu Sepp Kuss même s'écarter
avant de prendre
le petit Piganzoli. Voilà. Qui refait le tour après le Giro.
Il y a le feu dans
la boutique. C'est qu'il manque du monde. Parce que Piganzoli, Giro et Route Occitanie, qu'il a remporté haut la main, il a mis une tôle à tout le monde. Mais pour un gamin de son âge...
C'était pas prévu qu'il soit là.
Ben non.
C'était...
Donc ça veut dire qu'on a un peu été bricolé pour faire une équipe du côté de Visma.
Elle est moins impressionnante qu'à la grande époque de Visma. Qui dominait le peloton.
Ouais, mais comme par hasard,
et qui arrivait à déstabiliser Pogacar.
L'équipe Visma qui plie Pogacar, parce que techniquement, ça n'existe pas.
Puisque vous parlez d'un petit jeune, un Italien, Davide Piganzoli, 23 ans.
Pig.
En France, on en a un qui a 4 ans de moins, qui s'appelle Paul Sexas. Et on va en parler quelques minutes quand même. C'est pas souvent qu'on parle de Paul Sexas.
Non, c'est rare.
Pogacar et Sexas, c'est très rare. Du coup, je suis content de participer à ce podcast.
Et pendant ce Tour de France, on aura une reporter qui sera au cœur de l'univers Paul Sexas. C'est Léna Marjac qu'on va accueillir dans ce podcast pour lui souhaiter la bienvenue. Bonjour Léna.
Salut tout le monde, ravi de que vous m'accueillez dans ce podcast.
Bah surtout, on va t'entendre tous les jours dans les émissions, pendant le direct, pendant l'after, pour nous parler effectivement.
On se met en petite souris, c'est ça, en petite souris pour essayer de suivre.
Exactement.
Polo, je serai partout.
Une petite souris, de toute façon, Léna peut se faufiler partout, avoir toutes les informations. Et tu étais déjà aux premières loges, puisqu'il a parlé, Paul Sexas, hier. Il n'y a pas eu de grande conférence d'équipe. Mais en revanche, il y a cette fameuse conférence qui existe depuis quelques années maintenant, juste avant la présentation des équipes, où on retrouve les leaders. Et Paul Sexas, malgré son jeune âge, malgré ses 19 ans, est déjà considéré par l'organisateur ISO comme un leader et pourquoi pas un vainqueur potentiel. Alors, ce n'est peut-être pas l'objectif de Paul Sexas pour cette saison, Léna, pour cette édition. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'ambition.
Oui, il y a des ambitions et justement tu parlais de cette conférence de presse hier qui a donné quelques petits indices sur cette pression et les attentes que peut clairement avoir cette équipe Décathlon CMA-CGM, enfin surtout clairement Paul Sexas, parce que hier on a eu une salle comble pour Paul, une centaine de journalistes, autant que pour Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, mais on a senti Paul un peu moins à l'aise que d'habitude d'ailleurs dans cet exercice avec la presse. Il était en contrôle, il était en retenue, il était peut-être aussi un peu intimidé parce qu'il y avait plein de visages évidemment inconnus pour lui. Pourtant voilà, le Tour de France, Sexas, il en rêve depuis toujours. Ce sont des souvenirs d'enfance, les étés devant la télé avec les grands-parents, mais aujourd'hui terminé le Tour à la télévision et donc place aux choses sérieuses.
Je pense ça comme on va dire n'importe quelle course, forcément avec le maximum de sérieux et d'attention, et je suis prêt à forcément ce petit extra du fait que ce soit le Tour et que ce soit un rêve d'enfance. La priorité reste la manière de jouer le classement général, pouvoir faire cette expérience, voir comment ça se passe. Après, quelle position, je ne sais pas encore, je peux pas vous le dire. Mais je ne prendrai pas de risque pour autre chose que le classement général, je pense. En tout cas, ça dépend de la situation dans laquelle je suis.
Et donc, pour mener à bien cet objectif que vous venez d'entendre, le classement général, Paul peut compter évidemment sur ses coéquipiers chez Decathlon CMA-CGM et notamment Aurélien Paré-Peintre.
C'est mon cinquième tour, mais c'est un peu le premier que j'aborde dans cette optique avec un leader pour jouer vraiment, vraiment très haut. On parle plus du tout d'ambition personnelle quand on a un leader de la trempe de Paul, et c'est bien normal. Tous les jours, ça sera vraiment autour de lui. On a quand même envie d'y mettre de cœur à l'ouvrage, quoi.
Voilà, une équipe soudée, une équipe motivée, lancée vers un même objectif. Et d'ailleurs, hier, toute l'équipe est allée préparer le contre-la-montre par équipe sur le circuit de Formule 1 de Barcelone. Il y avait du sourire, il y avait de l'envie, des gars qui roulaient vite aussi. Donc, il n'y a plus qu'à, et surtout, il n'y a plus qu'à pour Paul Sexas qui va vivre, on le rappelle, son premier Tour de France à 19 ans.
Exactement, merci beaucoup Léna. Et tu fais référence à cet entraînement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais plusieurs équipes avaient réservé des créneaux d'une heure et demie pour s'entraîner sur le circuit de Barcelone. Je crois même que UAE n'avait pas de créneau et a essayé de récupérer celui de Total Energy et on leur a dit non, c'est pour nous, c'est réservé. Tiens, petite erreur, manque de professionnalisme du côté de chez UAE. On verra si ça leur coûte quelque chose dès cette étape de samedi. Est-ce que Paul Sexas, vous l'avez trouvé un petit peu différent, messieurs, avec cette journée de présentation, une pression qui monte forcément, 19 ans seulement pour un premier Tour de France, et on le lâche en plus dans une salle où il y avait une centaine de plus de 200 journalistes, je crois. C'est quand même pas un exercice très simple. Et effectivement, il était un petit peu dans ses petits souliers, quoi.
Oui, alors moi, je n'étais pas à la conférence de presse vraiment de Paul Sexas, mais je peux comprendre s'il était un petit peu différent. Les conférences de presse, que ce soit au Tour Auvergne-Rhône-Alpes ou autre, il n'y a pas autant de journalistes que ça. Ouais. La présentation de l'équipe qui suit, tu sens très bien quand tu arrives, tu peux faire n'importe quelle autre course. On ne va pas refaire le débat sur s'il devait être au Tour ou pas, mais même si tu vas au Tour d'Italie, même si tu vas au Tour d'Espagne, il n'y a rien qu'à l'ampleur du Tour de France. Donc même s'ils sont peut-être un petit peu à l'écart de l'agitation, etc., tu sens que tu es au Tour de France. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu vas sur un circuit de Formule 1 pour faire le chrono par équipe. Si c'était au Tara, ils n'ont pas loué le circuit de Manicourt pour aller s'entraîner en chrono par équipe. Donc, bien sûr, il n'y a rien à voir. C'est son premier tour. Même si tu ne joues pas, même si tu n'as pas le niveau de Paul Sexas, moi, je n'étais pas du tout stressé avant les courses. Mais le premier tour, je n'allais pas du tout pour faire un podium. Et tu n'es quand même pas le même que sur les autres courses parce que tu sens très bien que c'est autre chose et qu'il y a toute l'attente qui va avec, etc. Et en plus, Paul, il n'aime pas les interviews. Alors, il est très bon. On a vu notamment son interview après sa chute au Tara, là. Il est vraiment excellent dans cet exercice-là, mais il déteste ça.
Ah, il déteste ça.
Ah ouais, vraiment. Ah,
il donne vraiment pas l'impression. Ouais, hein.
S'il peut éviter, il éviterait, quoi. Mais il peut pas, malheureusement.
D'ailleurs, hier, on peut le dire, il a évité le
mais ça, c'est très bien.
Mais c'est normal. C'est normal. Ça, c'est
très bien. Il avait déjà donné une conférence de presse.
Avec 100 journalistes, c'était les mêmes. Et
je pense que jusqu'à hier,
je suis pas d'accord avec vous,
qui mettent les pieds dans la salle de presse pour son interview, je pense qu'il n'avait pas encore de pression. Et là, ça y est, on rentre un peu plus dans le tour et il sent la pression monter. Et lui, on a été coureur, pas de son niveau, mais on a été coureur. Là, maintenant, on en a marre. T'as qu'une envie, c'est d'accrocher ton dossard et de démarrer.
Où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il y a la presse française, les radios qui l'attendent. Parce que dans cet exercice, ce grand exercice, il y a surtout le travail de la presse écrite. Et que là, voilà, c'est pas très difficile de s'arrêter 3 minutes pour 2 questions.
Tu sais bien, le problème, aujourd'hui, c'est que c'est pas 3 minutes et c'est pas 2 questions.
Pierre-Yves, aujourd'hui, tu sais bien que tous les grands champions français, les jeunes champions français, sont sur ce modèle-là, que ce soit Antoine Dupont, Wembanyama, Arthur Fils.
Il y a une armée mexicaine autour de ces gars-là.
Tous les grands champions français, aujourd'hui, moi, ils en font avec la presse et les médias, mieux ils portent.
Sur ce sujet-là, je vous rejoins parfaitement parce que ça me gêne aussi. Alors, le fait qu'hier, il ne se soit pas arrêté, il a passé une journée longue et je pense qu'il avait juste envie un peu là, d'être au calme.
Mais non, mais ce n'est pas très grave. Hein. Il a 19 ans.
Je te rejoins, Poggi l'a fait, Remco l'a fait, ils se sont tous arrêtés sauf lui. Bon, c'est comme ça. Après, il y a autre chose. Je pense que cette façon de ne pas parler avec les génies de la communication, et là, on l'a vu hier, il y a quand même un paquet de... Il y a une armée mexicaine autour des leaders et notamment de Paul Sexas, pas moins de 3 ou 4 personnes autour de lui pour communiquer. Je pense qu'on fait de la non-communication une communication. J'entends par là qu'ils savent que s'ils ne nous parlent pas, on va en parler encore plus. Et que de le protéger, c'est aussi d'attaquer ce premier tour. Là où je rejoins Pile et toi, Christophe, c'est on est dans l'apprentissage. D'accord ? On a dit, il vient pour ce Tour de France pour apprendre pour le futur et apprendre... Parce qu'un jour, il va gagner cette course.
Donc, il faut apprendre aussi à faire ça.
Il ne pourra pas se défiler. Ouais. Donc, il faut qu'il rentre dans son rôle de futur vainqueur d'un Tour de France.
Et se rendra compte. C'est peut-être pas lui qui n'a pas voulu s'arrêter. On n'en sait rien.
Peut-être.
On n'en sait rien.
Ouais, tout à fait. Mais il se rendra compte que l'exercice n'est pas si compliqué que ça.
C'est un point principal de ce qui s'est passé autour d'Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai dit, on en a parlé en antenne. La communication autour de Paul, il n'y a pas que Paul. Et je trouve, à mon petit niveau, qu'elle a été pas catastrophique, mais pour le moins moyennasse, comme si on peut exprimer ainsi, autour de Paul, autour de Vernonap. Moi, j'ai vu des choses qui ne peuvent pas arriver quand on a potentiellement le futur vainqueur du Tour de France dans son équipe. Ça ne doit pas arriver, surtout quand on voit l'armée mexicaine qu'il y a autour de cette équipe. Il n'y a pas que le tour, il faut bien bosser avant. Et ça commence autour de Werner Hopp, ça commence sur les stages. Il y a des choses qu'il faut maîtriser un peu mieux que ça, je pense.
On est sur l'avant-tour, mais on peut quand même se plonger sur ce week-end barcelonais et sur ce que serait un tour réussi pour Paul Seixas. Alors déjà, une première image sur cette présentation, il avait toujours ses pansements. Est-ce que ça, Jérôme Coppel, ça peut être le signe que tout n'est pas encore parfait ?
Ah bah bien sûr, parce que si tout était parfait, il n'aurait plus de pansement. Et ça, moi, c'est le petit truc qui m'inquiète un peu. Alors Paul, en conférence de presse et dans les différentes interviews, a rassuré, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais si tu as des pansements, c'est que tes plaies ne sont pas complètement guéries. Et l'énergie que ton corps met à guérir les plaies, c'est de l'énergie qu'il ne met pas à optimiser la récupération ou sur les efforts à l'entraînement. Donc c'est jamais très bien. On avait eu ce débat après sa chute. Est-ce que c'est un mal pour un bien ? C'est jamais un bien de tomber. Ça arrive pas. Le seul bien qu'on pourrait tirer de cette chute, c'est qu'il a fait une erreur. Il l'a reconnu. Il la refera pas sur les routes du
tour. C'est de l'apprentissage.
Au moins, c'est de l'apprentissage. Maintenant, nous, on n'est pas dans ses jambes, on n'est pas dans son équipe, donc on ne sait pas vraiment dans quel état il est. On est obligé de croire ce qu'il nous dit. Il nous dit que ça va. Eh ben, c'est que ça va aller. Il y a pas de raison. Maintenant, quand toi, tu démarres le tour déjà bandé, quand on connaît pour l'avoir fait que les premières étapes du tour sont ultra nerveuses, qu'il y a toujours des chutes. Ici, on dit, il a beau faire beau en Espagne, les routes sont quand même toujours glissantes, etc. Bon, bah, c'est jamais bien de démarrer le tour un peu pluché. Maintenant, s'il retombe pas dessus, etc., ça devrait pas lui porter préjudice pour le résultat.
Sachant que les seuls pansements qu'il porte encore, c'est les pansements qu'il a sous l'avant-bras. Oui. Et l'avant-bras, vous le savez, c'est le point d'appui pour un contre-la-montre. Et peut-être que c'est aussi de la protection pour pas s'abîmer encore plus et être gêné lors de l'effort collectif en solitaire, on sait plus trop ouais. D'ailleurs.
Mais... Il a pas roulé quasiment en extérieur pendant une semaine. Il a fait du home trainer à partir du mercredi qui suivait la chute du samedi. Ça, dans la préparation à 15 jours d'un Tour de France, Jérôme, c'est un petit handicap, un frein. Ça peut avoir des effets ?
Non, parce que moi, j'ai pas le contenu de ces séances sur home trainer, mais j'imagine. Et je sais que ces jeunes coureurs aujourd'hui, avec tout le staff qu'ils ont autour, sont capables de s'infliger des séances sur home trainer qui va largement parfois des sorties sur route et même au niveau des intensités sont presque plus faciles à
effectuer. Tu travailles beaucoup mieux sur home trainer.
Et la seule problématique de l'home trainer, c'est qu'il faut être une machine, il faut être un robot parce que c'est psycho. Tu fais 3-4 heures de vélo sur un bazar. L'essence même de notre sport, c'est d'être à l'extérieur et découvrir la nature. Là, tu es dans une piole, tu transpires beaucoup et tu vois rien qui défile. Mais si psychologiquement, il avale tout cela, c'est pas un problème. Il a fait des très, très bonnes séances. Rouler sur home trainer. Si tu me dis, il a fait une semaine à 15 minutes pour un peu tourner les jambes parce qu'il avait le coude posé sur des livres et puis l'autre posé sur une table à repasser ce qu'il est cassé de partout, là, c'est gênant. Si c'est parce qu'il voulait pas prendre de risque pour éviter l'humidité, etc., et de pas retomber et ou de se mettre de travers sur un vélo, alors que là, sur home trainer, c'est plutôt fixe. Bah, tant mieux. Et ça, c'est ça. Enfin, je parle sous ton contrôle, G, qui connaît bien les pratiques et les zones de travail, etc.
Et les chutes,
ça pose aucun problème.
Bah oui, oui. Non, mais et les chutes aussi. Parce que j'ai préparé le Tour de France 2015 et le Championnat du Monde sur home trainer, parce que je m'étais cassé la main autour du Pays Basque. Mais non, c'est un super outil. Déjà, tu fais ne serait-ce qu'une heure d'home trainer, c'est une heure pédalée. Quand tu vas faire une heure de vélo dehors, tu pédales pas pendant une heure. Donc, en termes de charge de travail, c'est beaucoup mieux. Tu peux beaucoup plus monitorer tes exercices. Tu n'as pas de feu rouge, tu n'as pas de passant qui coupe la route, etc., etc. Donc, pour le travail, c'est top. Tu ne peux pas faire des très grandes sorties, faire attention, tu te déshydrates, etc. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais les équipes sont armées, elles connaissent tout ça, il n'y a pas de problème. Donc il n'a pas perdu de temps à reprendre sur home trainer. Au contraire même, surtout qu'après il a pu enchaîner sur le stage en altitude avec le reste de son équipe. Bon, ça, c'est peut-être un mal pour un bien pour le coup.
Sachant qu'un rappel altitude, on n'est pas sur le stage d'altitude.
Non, non.
On est sur le rappel altitude. C'est-à-dire qu'on a été pendant 3 semaines sur le TID, on est redescendu faire le Tara et on remonte pour faire un rappel. C'est-à-dire que le travail d'altitude, c'est uniquement pour... c'est
pour prolonger
et puis remplacer un peu les globules qu'on a fait en stage qui ont été un peu sacrifiés pour la course. C'est un rappel. Ça, attention.
On refabrique des globules un petit peu avec ce rappel.
Évidemment. Et donc, l'histoire du rappel, c'est quoi ? C'est en premier stage, quand tu vas pour la première fois, tu mets 5 jours d'acclimatation. Les 5 premiers jours, les mecs, ils roulent pas beaucoup. Hein. Ils roulent vraiment très peu et très, très lentement. Donc, ça, Paul, il l'avait fait. Le deuxième stage, tu mets 2 jours, un jour ou deux, ça veut dire que lui, s'il a fait 4 jours sur home trainer, il a loupé que 2 entraînements hein, par rapport aux autres. Donc finalement,
en altitude.
En altitude.
Tu veux dire. Ouais, sinon, il ne les a même pas loupés.
C'est rien. Donc c'est rien. C'est juste à la marge. Contrairement à Tadej Pogacar qui, lui, n'est pas allé en altitude.
Tant mieux, parce qu'on avait.
Il n'est pas allé à Isola, il est resté avec Kurska qui a été accidenté.
Tant mieux, parce qu'on a beaucoup d'espérance sur le Tour de France, ce premier Tour de France de Paul Sexas. Pas du tout, mais justement, Jérôme, tu donnes ton avis, mais c'est la question que je pose à Christophe Cessieux, parce que tu le disais tout à l'heure, 25 Tours de France. La dernière
déjà
victoire
présent
française.
En 1971 quand le Tour de France démarrait par un
la victoire de Luis Ocaña.
Le premier que j'ai vécu, c'était pas en 71, c'était en 75, mais j'étais tout petit, j'étais derrière la moto de mon papa et on avait été voir Bernard Thévenet, tu te rappelles? N'étais à l'époque qu'une lumière dans le regard de ton
même
père,
pas même pas une pensée dans ce que je pense de
et
mon
les
père.
Images étaient toutes en noir et blanc à l'époque. Christophe, forcément on l'attend pas cette année, cette victoire, mais toi qui as suivi autant de Tours de France, et on sait que c'est le marronnier, quel jour un Français va succéder à Bernard Hinault, les années qui viennent sont des années de
oui,
bonheur, d'espoir.
On en a eu des espoirs depuis 25 ans. Les années Virenque, avant qu'il se passe ce qui s'est passé avec cette affaire Festina, on pensait qu'il serait peut-être capable de remporter le Tour, même s'il avait une adversité incroyable, Ulrich et compagnie. Mais on y a cru en 96, en 97 surtout, on a cru que Richard serait capable de remporter le Tour. Derrière, on a eu l'illusion de quand Jalabert a gagné le Tour d'Espagne, de se dire que peut-être aussi il allait être capable de remporter le Tour de France. Et puis ça s'est vite écroulé. Thibaut Pinot, rappelle-toi quand Thibaut Pinot a débarqué sur le Tour, c'était incroyable les espoirs qu'on avait placés en Thibaut, plus peut-être qu'en Romain Bardet. Mais Thibaut Pinot, on disait c'est lui, c'est le Messie, c'est l'élu, comme
jusqu'à
disait Marc
Maguire.
Jusqu'à
cette voiture qui s'arrête à côté de lui et qui découpe son bandage.
Alors oui, ça c'est de 2019, mais avant 2019, quand il a commencé à être là, qu'il a fait un premier podium sur le Tour de France alors qu'il était tout jeune, on y a cru. On a eu des espoirs pour tous ces mecs-là. J'espère que Sexas ne sera pas comme ces espoirs qu'on a eu là et que ça va pas faire pchit comme les autres finalement.
On a le sentiment que la base est plus solide.
C'est pas la même chose. Je pense qu'il a un moteur beaucoup plus important, qu'il est capable de briller à la fois dans les descentes, même s'il s'est raté là sur le Dauphiné, mais sur les chronos en montagne. Voilà, il a une équipe entièrement à sa main. Je pense qu'il a plus d'atouts dans ses mains que ne l'avait Pinot, Virenque et les autres. Mais voilà, mais
soyons patients.
Il faut être patient. Quoi.
Soyons patients et indulgents.
Ce sera pas cette année.
Merci messieurs pour ce premier rendez-vous à Montjuïc. Il va y en avoir d'autres pendant tout ce week-end évidemment à l'antenne. Et puis vous retrouverez à l'After Tour chaque jour sur la chaîne de podcast du peloton RMC pour débriefer chaque étape. Et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux évidemment. On vous montrera les coulisses, on vous présentera chaque étape. Et on est très heureux de vivre ce Tour de France 2026 à vos côtés.
Le peloton RMC.